les États-Unis n'ont aucune compassion pour les pays islamiques, souligne le président iranien Ebrahim Raisi. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires de réseaux terroristes ont renouvelé leurs attaques contre la localité d'Abu Rasin, dans la banlieue nord-ouest d'Asaka, et en Somalie, sept terroristes Shebab ont été tués dans le centre du pays. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré dimanche 3 avril que les États-Unis n'avaient aucune compassion envers les nations islamiques de la région. Au cours d'une conversation téléphonique avec son homologue irakien Bahram Saleh, le président iranien a déclaré qu'il était devenu évident que cette puissance extérieure à la région ne cherchait que son propre intérêt et ses propres objectifs hégémoniques. Il a indiqué que l'Iran soutenait l'Irak dans ses efforts pour promouvoir son unité, son indépendance, sa sécurité et son statut régional et international, et a souligné que toute insécurité en Irak serait préjudiciable à l'ensemble de la région. L'ampleur des relations fraternelles et amicales qui unissent l'Iran et l'Irak dépasse de simples relations de voisinage, a souligné le président iranien à M. Saleh, son homologue irakien. Le président irakien a quant à lui mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale Iran-Irak afin de surmonter les grands défis régionaux, en accordant notamment la plus grande priorité à la stabilité et à la sécurité dans la région. Les crises régionales peuvent être résolues uniquement par les pays de la région et non pas par des ingérences extérieures, a affirmé M. Saleh. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires de réseaux terroristes ont renouvelé dimanche 3 avril leurs attaques contre la localité d'Abu Rasin dans la banlieue nord-ouest d'Asaka. Des sources locales ont fait savoir aux correspondants de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, que les groupes terroristes liés à l'occupation turque avaient violemment visé aux obus d'artillerie les maisons et les propriétés des habitants du village de Dardara, à proximité de la localité d'Abu Rasin, dans la banlieue nord-ouest d'Asaka. Les sources ont également indiqué que les attaques avaient causé des dégâts dans un certain nombre de maisons et de propriétés publiques et privées. Les centres de régularisation dans les banlieues de Deir ez-Zor, Raqqa et Alep ont témoigné la régularisation de la situation des dizaines de civils conformément à l'accord proposé par l'État, alors que le processus de régularisation a commencé dans la localité de Bada, dans la banlieue de Damas, pour un seul jour et dans le même cadre. Dans une déclaration aux correspondants de Sana, un certain nombre de personnes dont leur situation ont été régularisées dans la ville d'Al-Mayadine, dans la banlieue est des Resorts, ont révélé que le processus de régularisation est une vraie occasion pour retourner dans leur village et pratiquer leur vie normale. Par ailleurs, le correspondant de Sana dans la banlieue est de Damas a souligné le lancement du processus de régularisation dans la localité de Bada, où des dizaines de personnes recherchées ont afflué afin de régulariser leur situation dans le cadre des accords proposés par l'État pour établir la sécurité dans toutes les régions. Le correspondant de Sana dans la banlieue de Lara a indiqué que des dizaines de personnes recherchées ont rejoint le processus global dans les deux centres de Dépsia Afnan et Sabra. En outre, le correspondant de Sana à Alep a indiqué que les deux centres de Talarn et Ayan ont connu un grand afflux des personnes voulant rejoindre le processus de régularisation pour retourner dans leur village et à leur vie normale. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, est confronté à une dégradation de sa situation financière sur fond de crise Russie-Ukraine, a indiqué dimanche un non-responsable de l'instance. Le conseiller médiatique de l'UNRWA à Gaza, Adnan Abou Asna, a déclaré que certains pays donateurs avaient prévenu l'Agence des Nations Unies de ne pas attendre même la moitié des dons et subventions qu'ils avaient fournis à l'UNRWA en 2021. D'autres ont annoncé qu'ils allaient reporter la date de leurs dons. Cela coïncide avec une hausse mondiale des prix de la nourriture, du carburant et du transport, a-t-il noté. L'Hongrie déploie d'importants efforts aux côtés de nombreux pays européens pour s'assurer que les services de l'agence ne soient pas affectés, ainsi que pour souligner l'importance de ces services tant qu'une solution au problème des réfugiés palestiniens n'aura pas été trouvée, a ajouté le responsable de l'ONU. Le roi, qui a été créé en tant qu'agence humanitaire en 1949, est entièrement financé par les contributions et subventions volontaires des pays donateurs. L'agence a été mandatée pour assister et protéger environ 5,6 millions de réfugiés palestiniens enregistrés en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et dans des camps de réfugiés au Liban, en Syrie et en Jordanie. Les services offerts par le roi aux réfugiés palestiniens comprennent des services éducatifs, des soins de santé, des secours d'urgence, des infrastructures, l'amélioration de la situation dans les camps, des services de protection et une aide microfinancière. En janvier, le roi a annoncé qu'elle avait besoin d'1,6 milliard de dollars américains de la part de la communauté internationale en 2022 pour couvrir ses dépenses, maintenir ses programmes de développement humanitaire et continuer à assurer ses services aux réfugiés palestiniens. En Somalie, 7 terroristes Shebab ont été tués dans le centre du pays. Les forces spéciales de l'armée nationale somalienne, ANS, la brigade d'Anab, ont tué 7 terroristes Shebab et en ont blessé plusieurs autres lors d'une opération de sécurité dans une zone proche du village de Visil de la commune d'Obio, dans la région de Mudug, au centre de la Somalie, a indiqué à nos responsables militaires. Odova Yusuf Raj, chef de l'ANS, a déclaré que les forces spéciales avaient aussi arrêté deux terroristes et saisi des armes et un véhicule pendant cette opération. Nos forces ont récupéré des armes, principalement 4 engins explosifs improvisés, 4 fusils AK-47 et un véhicule lors d'une opération spéciale dans la région de Mudug de l'État de Galmudug, dans le centre de la Somalie, a précisé M. Raj. Il a souligné que l'opération ciblait les terroristes de la zone afin de réduire la menace qu'ils représentent dans la région, ajoutant que l'armée poursuivra ses opérations contre les Shebab jusqu'au retour de la stabilité. Cette opération est survenue 2 semaines après que l'État de Galmudug a tenu les élections parlementaires dans la région. Les forces du gouvernement ont intensifié leurs opérations contre les Shebab dans le sud du pays. Cependant, les terroristes contrôlent toujours les zones rurales de cette région où ils tendent des embuscades et placent des mines. La Pologne suggère de stationner des armes nucléaires américaines en Europe de l'Est. Le vice-premier ministre polonais a déclaré qu'une telle décision aurait du sens. Il s'est prononcé en faveur du déploiement d'armes nucléaires américaines en Europe de l'Est. Dans une interview avec le média allemand Die Welt, publiée dimanche 3 avril, le responsable polonais a déclaré que fondamentalement, il est logique d'étendre le partage nucléaire au flanc Est, se référant apparemment à un concept de l'OTAN par lequel les avantages, les responsabilités et les risques de la dissuasion nucléaire sont partagés dans l'ensemble de l'Alliance. Le vice-premier ministre polonais a toutefois noté qu'une telle initiative devrait venir des États-Unis. En plus de cela, il a appelé le bloc militaire à mettre en place un nouveau centre de commandement en Pologne, semblable à celui de la ville néerlandaise de Brunsum, d'où seront planifiés et menés les déploiements conjoints de l'OTAN. Selon le responsable polonais, cela enverrait un signal clair à la Russie que l'alliance militaire est désormais également présente en Europe de l'Est au niveau du commandement. Outre l'adoption du concept de l'OTAN, Varsovie accueillerait favorablement si les Américains augmentaient à l'avenir leur présence en Europe des 100 000 soldats actuels à 150 000. Les appels du vice-premier ministre polonais à Washington pour renforcer son contingent militaire sur le continent européen interviennent alors que l'OTAN a déjà accepté de déployer des groupements tactiques supplémentaires en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a écrit dans un article publié par Sputnik que les actions de la Pologne transformeraient le pays en une ligne de front de l'OTAN. La présence de troupes américaines sur le territoire de la Pologne a fortement augmenté depuis août 2020 et la position actuellement adoptée par les autorités polonaises est bien plus dangereuse pour la sécurité pan-européenne que la mythique menace russe dont Varsovie ne cesse de parler, a dit Dmitri Medvedev. Selon lui, les autorités polonaises promeuvent également avec malveillance une fausse version de l'histoire des relations de leur pays avec la Russie, présentant cette dernière comme un pays hostile. Selon le vice-président du Conseil de sécurité russe, les autorités polonaises sont prêtes à sacrifier le bien-être des citoyens de leur pays, leurs propres intérêts économiques, alors qu'elles sombrent dans une politique russophobe frénétique. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Pakistan, le coup d'État US capoté. Pour la première fois dans l'histoire du Parlement pakistanais, les parlementaires ont scandé « mort à l'Amérique », alors que la législature a rejeté un vote de censure qui visait à évincer le Premier ministre Imran Khan. Peu de temps après le rejet de la motion de censure contre le gouvernement, le Premier ministre pakistanais a proposé au président de dissoudre le Parlement. Le président pakistanais Arif Alavi a ainsi dissous l'Assemblée nationale sur les conseils d'Imran Khan. Il a appelé le peuple du pays à se préparer à des élections législatives anticipées après la session parlementaire. Le dimanche 3 avril, le président de l'Assemblée nationale du Pakistan a condamné l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays et a officiellement rejeté toute méfiance à l'égard du premier ministre pakistanais Imran Khan. Dans un discours tout récemment diffusé à la télévision officielle, le Premier ministre pakistanais a déclaré « J'annonce au peuple que j'ai reçu une lettre de menace des États-Unis. Ils ont menacé de renverser mon gouvernement pour avoir refusé d'établir des bases militaires US sur notre sol. J'ai appelé le secrétaire d'État à renforcer les relations avec les pays amis alors que les tensions montent dans la région. Non seulement je ne démissionnerai pas, mais aussi je reviendrai avec plus de puissance » car nous sommes exposés aux complots de pays étrangers. Nous résisterons et nous ne leur cédons pas, a déclaré jeudi Khan. Les États-Unis ont tenté d'obtenir le vote affirmatif de 172 membres du Parlement pakistanais, le nombre requis pour une destitution d'Imran Khan du pouvoir et l'ont même menacé de l'élimination physique. Par la suite, Imran Khan a déclaré dans une interview que sa vie était en danger et qu'il sait qu'il prévoit de le cibler à Londres. Un porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères a publié un communiqué rejetant les spéculations dans la presse selon lesquelles Islamabad avait décidé de fournir des forces américaines. La dernière base américaine au Pakistan a été fermée en juillet 2012 et le gouvernement d'Islamabad a ordonné son évacuation. Une attaque meurtrière d'hélicoptères de l'OTAN en œuvre en 2011 contre un poste de l'armée pakistanaise à la frontière avec l'Afghanistan, tuant au moins 24 soldats pakistanais, a provoqué la colère des dirigeants politiques et militaires pakistanais et en réponse, Islamabad a fermé la base aérienne de Shamsi au Baloutchistan. En juillet 2021, le premier ministre pakistanais a déclaré dans une interview à China Global Television qu'Islamabad était sous la pression des États-Unis et d'autres puissances occidentales concernant ses relations avec la Chine et a juré de ne jamais céder à cette pression. Le Pakistan et la Chine entretiennent une relation très spéciale depuis 70 ans et rien ne peut changer cette relation, a-t-il dit. Concernant la manière d'approfondir davantage les relations avec la Chine, le responsable pakistanais a déclaré que les deux parties avaient de solides relations politiques, mais que ces relations ne se limitaient pas aux relations formelles et incluaient les relations entre les peuples. Il a poursuivi en soulignant le rôle du commerce dans le renforcement des relations futures, qualifiant le corridor économique Pakistan-Chine d'un des plus grands acquis des relations amicales des deux pays.